Aujourd'hui, dans Voie de passage, nous allons parler de la promotion et de la prévention de la santé à Molenbeek. Avec nous sur le plateau, vous retrouverez Angela Longuin, responsable de la Croix-Rouge de Molenbeek, Alain Decoeuch, membre du conseil consultatif communal des aînés, et Amina Ferjioui, diététicienne.
Voie de passage.
Vous écoutez Voie de passage, le moment radiophonique du projet 1080 visages des étudiants en journalisme de l'ULB. Bonjour à tous, nous sommes le 21 avril et vous écoutez le 92.1 Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Voie de passage, c'est une émission éphémère qui se déroule en trois temps, trois émissions qui s'inscrivent dans le projet 1080 visages, un travail de plusieurs mois mené entre octobre 2016 et avril 2017, où nous, étudiants en journalisme, nous avons posé notre regard sur une commune qui a fait l'actualité au cours de l'année écoulée. Cette commune, c'est Molenbeek. Ce regard, nous l'avons voulu honnête, professionnel et surtout différent. Différent du traitement médiatique proposé depuis un an sur cette commune riche. Une richesse qu'elle tire de sa diversité, de sa mixité, qui est le résultat de toutes ces personnes qui vivent ici. Nous nous sommes concentrés à comprendre qui sont les acteurs de cette commune, acteurs passés, présents et futurs, et de comprendre comment cette commune fonctionne tant par ses acteurs politiques que ses habitants. Pour réaliser ce projet, nous avons été épaulés par nos différents professeurs, collaborateurs et trois médias partenaires, Le Soir, BX1 et Radio Campus. Ce projet transmédia atterrit donc aujourd'hui avec cette première émission, ainsi que l'exposition de reportages photos ce soir à la Fonderie à Molenbeek, notre salle de rédaction, notre cocon durant ces mois de travail.
Quand on pense santé, on pense souvent au côté médical, mais la santé, comme vous l'avez dit, par rapport à l'alimentation, c'est plein de choses. Hein. C'est la manière de se nourrir, c'est aussi la manière d'être en relation, la lutte contre la solitude, c'est la créativité, c'est parfois aussi la culture, enfin l'accès à la culture, ça permet aussi d'être en bonne santé, c'est le sport. Et puis évidemment, c'est avoir un minimum dans son portefeuille pour pouvoir faire des courses, pour pouvoir se nourrir.
C'était Madame Angel Goris, échevine de la santé de Molenbeek. Cet échevinat, créé en 2012, est le moins doté de la commune. En effet, sur un budget total de 43 millions d'euros, seuls 4 000 euros sont ainsi attribués à la santé. Selon un sondage mené par Dedicated en janvier 2017, la santé, après l'emploi et la sécurité, est pourtant la préoccupation principale des Bruxellois. Il faut préciser que les compétences en matière de santé sont davantage aux mains du fédéral et du communautaire. L'action de la commune n'est cependant pas négligeable. Elle est notamment compétente en matière de prévention et de promotion de la santé. En raison du budget très serré dont elle dispose, c'est là-dessus que l'échevine met l'accent. En cela, elle répond aux attentes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, puisque le ministre de la Santé, Maxime Prévost, a mis la prévention au cœur du plan santé Horizon 2030.
Du 7 au 8 mars avait lieu la Semaine de la Santé. Action majeure de la commune, cet événement a permis de cibler les priorités de la commune de Molenbeek en matière de santé. À Molenbeek, l'accent est notamment mis sur le bien-être et la prévention. Trois points ont émergé que nous allons aborder dans Voie de passage aujourd'hui. L'isolement des personnes âgées, la nutrition et le sport.
En raison notamment du peu de moyens dont elle dispose, Angel Goris a décidé de faire confiance aux acteurs locaux. Promouvoir l'action communautaire, développer le travail en réseau et l'action citoyenne, tels sont les objectifs de l'échevinat de la santé.
Le CCCA, donc c'est le Conseil consultatif communal des aînés. Donc il a été créé il y a 2 ans, je suis une des seniors, et donc c'est dans ce cadre-là, j'étais souvent confrontée à des seniors qui sont pleins de dynamisme, hein. On est seniors à partir de 60 ans, donc ce sont des gens qui sont encore en pleine forme, qui ont encore plein de projets, qui ont une expérience à revendre et à offrir, et cataloguer les personnes en leur disant bah, « maintenant vous êtes vieux », entre guillemets, bah, on est vraiment à l'inverse de ce qu'il faut faire, c'est un puits d'expérience, et donc ben, j'ai proposé de créer un conseil des aînés. Et le premier conseil des aînés de Molenbeek est né, mais avec une bonne vingtaine de participants. Et je pense qu'à Bruxelles, c'est un des plus gros conseils des aînés qui existe. Et ce que pour moi, ce qui était important, c'est qu'ils soient indépendants. Au départ, j'animais les réunions, etc. Mais à partir du moment où ils avaient des présidents, où ils avaient créé des commissions, je trouve que c'est à eux à voir vers où ils veulent aller, les projets qu'ils veulent porter, ce qu'ils veulent faire comme interpellation vis-à-vis du politique. Mais le politique n'a pas à avoir la main mise sur ce genre d'organes. En tout cas, ça, c'est mon avis.
Voilà, c'est en 2014 que Angile Goris propose la création du Conseil consultatif communal des aînés. Nous accueillons donc aujourd'hui Alain de Keuch, qui est un des responsables du CCCA. Et bonjour déjà, monsieur de Keuch.
Bonjour.
Et nous recevons à côté de vous Angela Longuin, qui est responsable de la Croix-Rouge de Molenbeek, où nous enregistrons cette émission. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, une première question pour vous, monsieur de Keuch. Pouvez-vous un peu nous rappeler, en quelques mots, l'action du CCCA au sein de la commune ?
Mais donc le CCCA, comme son nom l'indique, s'occupe des aînés. Il est divisé en plusieurs sections. L'une qui s'occupe plus spécifiquement de la santé, d'autres qui s'occupent de la mobilité. Moi, je fais partie de celles qu'on appelle les visiteurs. On va dans les maisons de repos et on essaie de repérer les personnes qui sont complètement isolées, complètement abandonnées. Mais ça va au-delà, évidemment, des maisons de repos, puisque on a trouvé des gens qui passent tous les radars, finalement, qu'on ne connaît pas au CPAS, qui ne sont pas signalés dans un certain nombre de choses et que l'on essaie d'aider.
Et alors, comment faites-vous pour repérer justement ces personnes ?
Eh bien, en allant sur le terrain. Il n'y a pas de secret. Il faut aller sur le terrain, écouter les gens. Et c'est comme ça que finalement, par le bouche à oreille, on découvre, on vous dit « Ah oui, il y a un monsieur là-bas, à la rue 22 Perrebaum, qui habite au quatrième étage. Il sort jamais, il n'y a jamais personne qui vient lui dire bonjour. Il tousse toute la journée, etc. etc. » Et donc, on essaie de lier le contact, ce qui n'est pas toujours facile, parce que ces gens ont aussi leur dignité, ont leur honneur, et parfois ils ne veulent pas passer pour des personnes mal intégrées dans la société. Et par exemple, à Molenbeek, vous avez un certain nombre de restaurants sociaux. Ou pour un prix extrêmement démocratique, vous pouvez avoir un repas
complet. Alors, je me permets de vous couper. Ce sont des sujets sur lesquels nous allons justement revenir un peu plus tard. Et c'est, je vois que vous avez plein de choses à nous dire.
Là, je fais de moi un bavard, parfait. Vous savez.
Ah non, non. Non, non, mais c'est parfait. C'est juste qu'avant de rentrer justement dans la spécificité de vos missions au sein du CCCA, j'aimerais qu'on revienne juste un peu sur le rôle, justement, et les missions de prévention de la santé que le CCCA, peut avoir au sein de la commune, puisque Angile Goris le disait, le but étant de créer un lien avec des acteurs sociaux ici sur la commune, mais voilà, vous-même, vous menez des actions, que ce soit les visiteurs ou même, il me semble, des conférences sur certains sujets. Est-ce que vous pouvez nous en parler pareil ?
Oui, donc, il y a le côté éducatif, si vous voulez, au travers des conférences. Il y en a eu récemment, pendant la semaine de la santé, sur le cerveau. Le cerveau et l'âge qui avance. Aussi, c'était le professeur, enfin honoraire maintenant, Izzy Pelk, qui est venu faire une conférence sur le cerveau, qui était extrêmement intéressante, qui était éclairante aussi pour les membres du CCCA, qui ont des contacts avec des personnes isolées. Et donc, pour ce qui est de la santé, eh bien, nous avons un comité qui s'occupe de la santé et qui peut aider des gens en les orientant selon leurs besoins ou selon leurs déficiences.
Et ce genre de mission, ça s'intéresse à toute la population. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux seniors ou
pas
quoi
du
que
tout,
ce soit aux seniors.
Ben, c'est-à-dire en priorité aux seniors, puisque nous sommes le Conseil des aînés. Hein, donc, mais on découvre très vite que à tous les âges, il y a des gens largués. Quoi. Donc, et bon, par la force des choses, on les aide aussi.
Dans ces missions de prévention, par exemple, dans le choix des conférences que vous proposez, comme dans le cadre de la semaine de la santé sur le cerveau, c'est des sujets que vous décidez vous-même au sein du CCCA, ou bien il y a aussi un lien avec, par exemple, Madame Lechevin et son équipe de la santé pour décider, tiens, il serait préférable de parler de ce genre de sujet aujourd'hui.
Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a aussi, disons, des liens avec des sociétés ou des groupements qui s'occupent plus spécifiquement d'un point de santé. Ici, c'était le cerveau. Ça nous a paru intéressant parce que tout le monde parle de l'Alzheimer aujourd'hui. Donc, à tort et à raison, d'ailleurs, parce que tout n'est pas Alzheimer non plus. Donc c'était important de faire le point là-dessus pour nous et aussi pour les gens. Il y avait une centaine de personnes qui étaient présentes à cette réunion, à cette conférence, qui s'est prolongée le lendemain dans une librairie qui se trouve à Jette. Ce sont des choses qui intéressent les gens, qui les inquiètent souvent. Et le discours et les informations du docteur Pelk étaient vraiment très importantes et très intéressantes parce qu'elles dédramatisaient parfois aussi les choses.
Très bien, merci déjà pour d'avoir éclairé les différentes missions du CCCA. Et on va pouvoir maintenant justement revenir sur cette mission dont vous parlez, donc les visiteurs, puisque ça fait un peu le lien avec aussi la Croix-Rouge. On va pouvoir y revenir avec le programme Estia. Donc parlez-nous un peu justement de ces visiteurs et quelle est leur mission.
Eh bien, donc, il se fait que nous sommes deux dans cette partie. Et nous sommes deux vieux Molenbeekois. On est né à Molenbeek et on y vit encore. Et donc, on connaît un petit peu, on a vu aussi évoluer la commune, entre autres démographiquement. Et donc, on sait depuis longtemps les quartiers qui étaient pauvres. Il y a 70 ans à ma naissance, et elle était déjà 100 ans plus tôt, et le sont toujours. Donc on sait très bien où ils sont, ces quartiers, et on sait très bien quelle population y vit. Et notamment pour parler des aînés, eh bien c'est là que les plus précaires vivent. Et donc... Il suffit de se promener, d'entrer dans des commerces, de s'informer un petit peu. Enfin, quand je dis il suffit, c'est une façon de parler, mais il faut s'informer, et comme ça on repère des personnes. Et donc, pour vous donner un exemple, on a découvert un monsieur qui est passé sous tous les radars des aides publiques et autres. Et qui attendait la mort, finalement. Et donc, on l'a mis en contact avec un restaurant social qui livre des repas à domicile. On a aussi été voir un médecin. On a prévenu les autorités communales. Et bon, malheureusement, ce monsieur est décédé entre-temps. Mais on était parvenu à lui rendre un petit peu sa dignité humaine. Je crois que le gros problème à Molenbeek, c'est un problème de dignité humaine, tant pour les aînés que pour les jeunes. Parce que pour les jeunes, on leur a promis des boulots qui n'existent plus. On leur donne des formations qui n'arrivent sur rien. Et donc, des enfants et des jeunes frustrés aujourd'hui.
Et est-ce que pour vous, peut-être déjà, le fait de prévenir, quand on parle de prévention de la santé, attention ici, on parle vraiment du bien-être dont vous parlez, la dignité, le fait d'être non pas isolé, mais d'avoir peut-être ne serait-ce qu'un lien social avec la société qui nous entoure. Et déjà, est-ce que justement, rendre cette dignité pour vous, que ce soit pour les jeunes ou les personnes plus isolées, est un facteur de prévention?
Évidemment.
Quels sont, à votre avis, vu que vous allez sur le terrain, les réels effets que ça peut avoir sur le bien-être des gens?
Comme pour
le monsieur. Donc.
Mais vous savez, lorsque vous dites à un jeune qui a des difficultés scolaires, et des difficultés, disons, psychologiques, personnelles. Lorsque vous lui dites, bon, est-ce que tu as vraiment envie qu'on te traite de profiteur, de chômeur professionnel, comme c'est le cas, souvent à tort, évidemment. Est-ce que c'est ça que tu as envie? Bon, on essaie déjà de le pousser vers les études, parce que le but de l'éducation, ce n'est pas nécessairement de devenir serveur chez McDonald's. Moi, j'ai le plus grand respect pour ceux qui sont serveurs chez McDonald's, mais ce n'est pas normal qu'il y ait des jeunes, et souvent d'origine étrangère, par leur famille, des jeunes qui sont diplômés et qui se retrouvent à servir des frites et des hamburgers. C'est pas normal.
Et donc le CCCA, par exemple, ne parlons plus des personnes isolées, il y a aussi des missions portées vers les jeunes pour ce genre de problème.
Mais on rencontre les jeunes. On est allé, par exemple, il n'y a pas tellement longtemps, dans une école, l'école Saint-Rémy, pour ne rien vous cacher, où on est allé raconter aux élèves, donc des élèves qui avaient quelque chose entre 12 et 15 ans, on leur a raconté comment était leur école et comment était leur quartier et comment était Molenbeek quand nous avions leur âge. Donc ce qui remonte à quelques heures. Et ça permet de leur faire comprendre que c'est une commune qui a toujours eu des problèmes. Moi, j'ai été à l'école primaire à la rue Le Lorrain, et c'est aujourd'hui, paraît-il, une école à problèmes, comme on dit. Donc, bon, mais c'était déjà une école à problèmes dans les années 50. Et à ce moment-là, l'immigration était italienne. Et on entendait exactement la même chose contre les immigrés italiens. Et donc, tout ça... Et vous savez, mon arrière-grand-père, qui est le premier qui est arrivé dans la famille à Molenbeek, il était flamand et il était considéré comme un immigré. Hein. À l'époque, il venait du côté de Gand. Et pour venir de Gand à Bruxelles à pied, il fallait un jour et demi. C'est beaucoup plus qu'entre Casablanca et Bruxelles en avion.
Hein. Je me permets de profiter, de rebondir sur ce que vous dites. Pour revenir cette fois-ci aux personnes isolées, déjà savoir si dans cette commune multiculturelle, est-ce que ça touche tout le monde ? Ou bien par exemple que les Belgo-Belges, voilà, en discutant avec des personnes d'Estia, il s'avère que culturellement, des fois, l'habitude, les gens ne sont pas prêts toujours à être aidés. Peut-être que Madame Longuin peut aussi intervenir pour nous parler un peu pour la Croix-Rouge, rapidement déjà sur Molenbeek, à votre avis, voilà, par rapport à l'aide qu'on peut tendre à des personnes.
Au niveau des personnes qu'on aide, c'est souvent des personnes des Belges, parce que les personnes d'origine étrangère, maghrébine, sont fort aidées par la population. Donc, un simple exemple, nous on a rencontré des jeunes filles qui vont aider les personnes de leur quartier, des personnes des Belges, des 70, 80 ans, et ils leur apportent à manger, ils leur apportent des vêtements, ils font les courses et tout ça avec. Donc déjà, voilà, entre eux, ils s'aident. Vraiment, il y a une... Mais voilà, ça c'est... on intervient surtout pour des personnes isolées, mais qui sont belges.
Souvent,
voilà.
Mais du coup, c'est surtout parce qu'il y a une solidarité.
Tandis que l'autre côté, on voit vraiment cette différence. Hein. C'est que bon, c'est culturel. Hein. C'est vraiment. Je suis d'origine italienne, donc nous, on aide également les personnes âgées et tout ça, notre famille et tout ça. On est vraiment soudés, comme ici. Tandis que voilà, les Belges, on a cette impression qu'ils sont plus à mettre les personnes dans les maisons de repos. On les oublie, les enfants oublient souvent, et c'est ça. Actuellement, nous, avec Estia. On s'occupe vraiment des... Voilà, par exemple, j'ai une dame, une personne âgée, son fils est en prison, son autre fils est atteint d'un cancer, et on l'a aidée. Donc, il y a une volontaire qui va chez elle. J'ai demandé à la section des Turbeek de venir lui apporter une chaise roulante, parce qu'elle... Voilà. Et ils sont un peu abandonnés par leur famille aussi. Donc, ça, c'est...
Oui, c'est souvent, ça, hein. Souvent le problème qu'on a pu constater dans les témoignages qu'on a eus, qu'on va entendre d'ici quelques minutes, et puis notamment avec une discussion avec Julie Tumers, qui s'occupe justement du pôle Estia dans la centrale de la Croix-Rouge à Bruxelles, qui nous expliquait que les enfants, des fois, vivaient quelque part en Wallonie, quelque part à Bruxelles, mais que ce n'était pas toujours facile. Mais il y avait aussi quelque chose, c'était l'attachement des personnes, même isolées, à leur commune, au lieu où ils vivaient. Et c'est des choses que vous constatez.
Ah oui, ils veulent pas quitter leur domicile. Ils y vivent depuis 30, 40, 60 ans. Ils veulent pas quitter. Ils veulent vraiment rester chez... Voilà, ça c'est vraiment le... Allez, c'est pas un souci, mais c'est vrai que là, ils ne veulent pas suivre leurs enfants ou quoi que ce soit. Ça, non.
Monsieur De Keuch, c'est quelque chose que vous avez peut-être noté aussi de votre côté.
Je confirme tout à fait ce que dit madame. À Molenbeek, il y a toujours eu un mouvement migratoire interne, si j'ose dire. On allait s'installer dans le centre de Molenbeek, le bas de Molenbeek, comme on dit. Et dès qu'on réussissait un petit peu dans la vie, on allait vers le haut de Molenbeek. Bon. Maintenant, on va beaucoup plus loin que le haut de Molenbeek. On va en Brabant flamand, etc. Y compris, d'ailleurs, parmi les populations d'origine étrangère. Hein. Donc, c'est un mouvement qui se fait. Hein. Et donc, il y a une stagnation sociale, si vous voulez, qui s'effectue dans le bas de Molenbeek, dans le centre de Molenbeek, et qui se répète de génération en génération et de vague migratoire en vague migratoire. Et c'est... Bon, franchement, je n'ai pas de solution à apporter pour ça, mais c'est là qu'on trouve les grands problèmes. Et donc, pour ce qui est de l'isolement des personnes, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que c'est simplement une question de présence de plusieurs générations au même endroit. Quand vous allez dans des villes wallonnes ou des petites villes wallonnes, le lien familial est encore très très fort. Ici, il a été complètement distendu par le genre d'occupation qu'on a, par l'évolution d'une ville qui était provinciale il n'y a pas tellement longtemps et qui, puis, je dirais depuis 1958, commence à devenir une capitale d'abord de
l'Europe.
De l'Europe, hein, et donc à devenir essentiellement multiculturel. Hein, je crois que il y a parmi les populations belgo-belges, comme on dit, il y a le fait que les familles ont un petit peu explosé et géographiquement parlant, et donc on ne se voit plus et on oublie la vieille bobonne qui est dans un home. Donc et parfois, là, c'est une petite critique que je voudrais émettre. Parfois, dans les homes, on n'est pas très coopératif pour aider ces personnes de l'extérieur. Ben, moi, je peux vous dire que j'avais tenté d'organiser une petite sortie avec des personnes isolées dans un home. Je ne vais pas le citer parce qu'il n'est pas question ici de stigmatiser. Mais on m'a dit non, pas question, ça on fait nous-mêmes. Bon. Ok,
mais
très bien.
Ils le font donc derrière.
Ils le font, mais ils le font payer.
D'accord. Ouais.
Parce qu'après même dans le cadre de cette émission, vous saviez que les maisons allaient être justement réticentes à notre venue pour une émission. Vous saviez qu'on n'allait pas pouvoir vous accompagner lors de vos visites chez ces personnes isolées.
Et d'ailleurs, j'en profite pour reprendre la balle au bon, puisque l'idée qu'on avait eue aussi, c'était de suivre du personnel d'Estia pour aller rencontrer des personnes isolées, pas pour les rencontrer elles ou pour une question de dignité ou quoi que ce soit, mais pour voir le travail, saisir le sens de cette action. Malheureusement, il n'a pas été possible justement d'aller chez les personnes pour des raisons dont on reparlera plus tard dans cette émission, mais je vous propose d'entendre un portrait croisé de deux Alice que 60 ans séparent, une de 22 ans et une de 82 ans, qui sont toutes les deux bénévoles chez Estia.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Vous allez bien ?
Je vais bien. Et vous ?
Ça va. Merci de nous accueillir.
Eh bien, bonjour Alexandre Thibault. Installez-vous. Eh bien, voilà, je vais d'abord me présenter. Je suis Alice Debris, j'ai 82 ans. J'habite Molenbeek depuis 20 ans maintenant. Ma commune de prédilection, c'est Anderlecht. Ça, c'est entre parenthèses.
Donc, je m'appelle Alice Niasimbi, j'ai 22 ans. L'année passée, j'ai eu mon bachelier en sciences administratives et gestion publique. Pourquoi je me suis inscrite à Estia ? Bon, d'abord, j'ai toujours voulu faire du volontariat, mais j'ai jamais eu de temps pour pouvoir le faire. Et donc, l'année passée, comme j'ai eu mon bachelier, je me suis dit que j'aurais plus de temps à consacrer au bénévolat.
Et c'est après le décès de mon mari que j'ai pu m'investir dans l'action sociale qui est préconisée par la Croix-Rouge. J'ai vu une annonce dans un journal qui faisait une information à Molenbeek, et c'est à partir de là que je me suis intéressée à ce projet et que j'ai suivi la formation à la Croix-Rouge.
J'ai pas vu, j'ai cherché moi-même.
D'accord.
Oui, parce que je voulais. Donc je me suis dit pourquoi ne pas commencer maintenant et attendre. J'ai cherché, je leur ai envoyé un message pour leur dire que voilà, j'aimerais bien être volontaire. Et après, il y a eu la formation. Et là, je devais choisir parce que je savais pas encore quoi faire. J'ai préféré Estia parce que je me dis là, c'est un peu quelque chose où je peux vraiment donner, parce que si tu n'es pas quelqu'un qui écoute, qui partage, tu peux pas visiter les gens, tu peux pas aller rester chez les gens et discuter avec eux.
C'est apporter une visite d'une personne extérieure et surtout être très à l'écoute de ce que la personne a envie de dire. Et...
Bon, là, j'ai choisi les personnes âgées parce que je me dis que ils ont besoin peut-être d'être écoutés, partagés et tout. Et moi, j'aime écouter, j'aime partager, j'aime beaucoup parler aussi. Et voilà. Je pense que ça peut changer leur vie à long terme. Parce que quand on est isolé, quand on n'arrive pas, on n'a pas des gens avec qui parler, c'est... Allez, je pense que ça nuit un peu à notre santé et ça nous enferme. C'est quelque chose qui n'est pas bien long. Le fait d'aller visiter les gens, de parler avec eux, de partager des choses avec eux, ça va vraiment leur apporter de la joie, quoi.
C'est ce que je fais aujourd'hui avec une dame qui a 92 ans, qui a des problèmes de marche, qui ne sait plus sortir seule, et aussi des problèmes de vue, et qui m'accueille toujours de façon très gentille, puisque la petite table est mise avec les tasses pour le petit café qu'elle m'offre, ainsi que le gâteau qui se trouve au frigo. Moi, je l'écoute. Et je ne sais pas. Ça me fait plaisir d'entendre. Elle est assez prolixe et elle me parle de sa vie, de sa jeunesse.
D'abord, moi-même, je suis une personne, je ne sors pas beaucoup. Oui. Et donc, parfois, j'ai besoin de parler avec des gens, j'ai besoin de partager. Du moment où je suis quelqu'un, je parle beaucoup et j'aime qu'on m'écoute. Je peux ressentir ce que ces personnes ressentent. Et donc, c'est un peu pour ça aussi que j'aimerais faire ça.
L'aide est quelque chose d'important pour moi. Voilà. Je crois que c'est une question de caractère.
Voilà, sur un air de Mozart, cher à notre... Enfin, qui était cher à Alice, chez qui on écoutait ce Mozart en faisant une interview. Je vais vous demander vraiment très rapidement une impression sur ces témoignages par rapport à votre vécu vous-même. Voilà, ce sera la dernière question de cette interview. Non ? Rien ? Peut-être vous, vous avez peut-être reconnu certaines... quand les deux Alice parlent par rapport à leur motivation ou ce qu'elles ressentent par rapport aux visites et leur conception de leur action.
Ben oui, évidemment, c'est le problème des personnes isolées et âgées, donc qui cumulent les deux. Il n'y a pas que des vieux hein, qui sont isolés, mais c'est peut-être plus présent chez les vieux, enfin chez les aînés que chez les autres. Et c'est peut-être une souffrance à cet âge-là. Et donc, ce sont des gens qui ont envie de parler, qui ont envie de communiquer, qui, pour 36 raisons personnelles ou extérieures, ne le font pas. Et donc, c'est à nous, les bénévoles, à aller les trouver. Parce que je crois que les structures... aujourd'hui, sont parfois les structures officielles, je veux dire, au sein d'une commune, sont parfois très compliquées, sont parfois un peu lente aussi. Et nous, on peut pallier ce genre de problème. Et donc, on va les trouver. Mais c'est aussi passionnant, hein, parce que on parle beaucoup du passé de Molenbeek, mais on en apprend beaucoup avec ces gens-là aussi quand on les rencontre et quand on discute. Et ça leur fait du bien d'en parler et de se souvenir d'un temps qui n'est plus et où ils ont été très actifs parfois. Donc.
Eh bien, merci beaucoup. Madame Longuin, quelques mots?
Non, mais je veux simplement le dire, c'est que depuis même pas un an, on a déjà 4 volontaires. Donc il y a vraiment une forte demande de pouvoir aider justement les personnes isolées.
Justement, Alice, plus jeune, est une des nouvelles arrivées.
Elle a été une séance d'information. Et c'est comme ça qu'elle est.
Voilà, exactement. Voilà. Elle a fait sa formation en novembre.
Il y a pas longtemps.
Elle est très heureuse. Elle attend maintenant qu'un bénéficiaire lui soit attribué parce que il faut savoir qu'il faut traiter les demandes parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et on reviendra là-dessus. En tout cas, je vous remercie de votre participation à notre émission. Madame Longuin, on va vous conserver un peu plus longtemps auprès de nous. Okay. Merci, monsieur de Keuch, en tout cas.
Merci.
On va maintenant parler avec Richard. Richard qui est dans notre promotion, qui fait partie du projet 1080 Visages et qui fait surtout partie de l'équipe télé qui a réalisé le reportage sur les maisons médicales qui sera diffusé sur BX1 ce dimanche, puis sur Internet, bien évidemment, à travers le portail du projet et j'imagine sur le site de BX1. Déjà, salut Richard.
Salut Alex.
Et peux-tu nous résumer en quelques mots le travail que vous avez mené sur le sujet?
Donc en fait, ça s'agira d'un reportage de 26 minutes où on a tenté de s'immerger dans le quotidien des Molenbeekois à travers la santé. À partir de là, on a décidé de se rendre dans une maison médicale, dans le vieux Molenbeek, qui porte d'ailleurs ce nom-là. Donc on veut en fait comprendre à travers ce reportage le fonctionnement et les liens entre les patients et les soignés, mais aussi entre les patients eux-mêmes.
Ce qui renvoie aux visites des personnes isolées, je trouve, dans l'idée dont on a parlé juste avant. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple, les motivations, puis aussi ce que vous avez appris et ce qui vous a marqué au cours de ce travail?
Oui, en fait, au niveau des maisons médicales, on a choisi de s'axer là-dessus, parce qu'il y en a plus qu'ailleurs à Bruxelles. C'est une des communes où on a le plus. Donc, on s'est dit aussi que c'était un lieu de vie, un lieu de rencontre entre les gens, que c'était intéressant de voir comment les gens, entre eux, discutaient, se rencontraient, etc. Donc, ça nous semble être allier à la fois l'aspect santé, mais aussi l'aspect molenbeekois, là où on veut aller, on veut rencontrer les gens, donc c'est à ce niveau-là. Et aussi, on ne comprenait pas spécialement bien le fonctionnement des maisons médicales. Je dois dire que toute une partie du groupe ne connaissait même pas les maisons médicales, donc ça nous a permis aussi de comprendre comment ça fonctionnait, aussi comment c'était financé, comment on essayait d'aider les gens à travers ces financements, etc. Donc c'est des choses un peu plus complexes que simplement des relations avec les gens, et donc c'était assez intéressant de voir ça également.
Et une dernière question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou même une difficulté particulière pour ce genre de reportage ?
Il y a deux grosses difficultés. La première, c'est au niveau de la santé. C'est un thème qui est quand même assez particulier, assez compliqué. Donc il faut convaincre les gens. Et à partir de convaincre les gens au niveau de la santé, il faut aussi les convaincre d'être filmés. Donc ça, c'est aussi un aspect assez particulier, assez difficile. Donc on a pris pas mal de temps à aller voir les gens, prendre plein de rendez-vous avant pour essayer de les mettre en confiance, expliquer concrètement le projet. Et à partir de là, c'est parti tout seul.
Eh bien super, merci d'être venu nous parler rapidement de ce reportage qui sera, je le rappelle, diffusé dimanche soir et lundi, je crois aussi, j'ai oublié tout à l'heure, sur BX1. Merci beaucoup Richard. Et puis je passe la parole à Thibaut, il me semble.
Oui, selon l'OMS, 75% des maladies chroniques pourraient être ainsi évitées par un mode de vie sain. Un esprit sain dans un corps sain, comme disait l'autre. L'autre, c'est bien sûr Thalès de Milet ou le poète latin Juvénal, on ne sait pas vraiment. Mais revenons-en à nos moutons, nous avons donc abordé cet aspect esprit sain avec le cas des personnes âgées. Il ne se limite bien sûr pas à ça. À Molenbeek, tous les spécialistes que nous avons rencontrés se rejoignent. Un des problèmes principaux en matière de santé est la nutrition. Nous écoutons Anne-Gilles Goris, échevine de la santé de Molenbeek.
Ah, c'est sûr que la précarité, c'est une réalité à Molenbeek. La pauvreté augmente un peu partout, y compris à Molenbeek. Et donc oui, les personnes parfois, fin du mois, n'ont pas toujours de quoi se nourrir correctement. Et donc, ben, y a des gens qui mangent du pain, beaucoup de pain, et avec des choses très simples à côté pour arriver à refaire une course, les courses au Lidl en début de mois pour remplir le frigo. Mais nous avons sur Molenbeek des lieux où les personnes peuvent avoir accès à des colis alimentaires. Donc entre autres le Snijboontje bis rue de Menin. Donc ça c'est Le Snaibone, c'est un des premiers restaurants sociaux, enfin le premier restaurant social de Molenbeek, il y a 40 ans, qui s'est ouvert. Et ils ont donc un Snaibone du bis qui donne des colis alimentaires et les demandes sont en train d'exploser parce que les gens sont confrontés à la pauvreté et à la faim.
Lors de nos pérégrinations, nous avons rencontré plusieurs acteurs qui œuvrent pour l'alimentation des populations précarisées, comme, désolé pour ma prononciation, le Schneibunche, dont parlent les Chevines, mais aussi une épicerie sociale ou encore la Fédération des centres des services sociaux qui a créé la Bourse aux dons, une sorte de banque alimentaire. À Molenbeek et à Bruxelles en général, de nombreux acteurs viennent en aide aux gens précarisés, à travers des paniers repas, des épiceries à très bas prix ou encore des restaurants où l'on paye en fonction de ses revenus. Le problème, c'est que la demande explose et ces actions ne touchent qu'une minorité de ces gens précarisés. C'est justement la limite de la prévention en matière de nutrition, car il est bien beau d'expliquer comment cuisiner sainement, encore faut-il pouvoir se payer ces aliments de qualité. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Amina Fejioui, diététicienne à la maison maison médicale Norman Béthune à Molenbeek. Bonjour Madame Fejioui.
Bonjour.
Alors, on voulait savoir, la bonne alimentation est-elle l'apanage des gens aisés ?
C'est une question un petit peu compliquée, mais je dirais que oui, c'est sûr qu'à Molenbeek, on rencontre des difficultés. Parmi mes consultations, j'ai souvent des patients qui me disent clairement qu'ils ont du mal à acheter suffisamment de fruits et légumes tous les jours. C'est encore plus difficile pour les familles qui dépendent de colis alimentaires. Là, c'est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, on a failli essayer, malheureusement le projet est tombé à l'eau, on a voulu faire des menus diététiques équilibrés à partir de colis alimentaires qui étaient distribués dans la commune, mais ça s'est avéré complètement, très 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 difficile à faire. Ce sont des surplus qui arrivent. Évidemment, ce ne sont pas des produits qui sont très demandés, mais vraiment souvent des produits qui sont très riches en sucre, en graisse, et donc faire des menus équilibrés à partir de ces produits-là, ce n'était pas évident.
Oui, c'est pas évident. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si justement ces gens ne peuvent pas se payer de la nourriture de qualité ? Comment fait-on de la prévention ?
La prévention, nous, on fait avec ce qu'on peut. Donc, ce qu'on organise régulièrement, évidemment, ce sont des conférences pour un petit peu apprendre aux gens comment s'alimenter. Parce que je pense que c'est vrai que le portefeuille est important, mais ça n'est pas tout. Une éducation nutritionnelle est importante aussi. Il faut savoir que ces gens-là n'ont pas facilement accès à une éducation alimentaire. Et la diététique, encore moins. Donc, moi, j'ai travaillé dans d'autres quartiers avant d'arriver à Molenbeek. Et je peux vous dire que les consultations diététiques sont très, très chères. Et donc, le fait d'avoir une diététicienne, parce que c'est gratuit dans les maisons médicales, puisque les patients sont au forfait. Donc, ils ont accès à ça. Je pense que c'est déjà un gros plus. Donc voilà, donc on fait régulièrement des conférences diététiques sur différents sujets. Donc on a passé en revue donc les différentes grosses erreurs alimentaires, donc les excès de sucre simple, de graisse, des choses comme ça, le manque de fibres, de fruits et légumes. On a également et on continue à organiser des ateliers diététiques où on apprend un petit peu comment se nourrir de manière simple et en ayant un maximum de nutriments dans chaque menu. Mais bon, voilà, de là à vous dire comment faire pour que les gens aient financièrement accès à tous des fruits, des légumes bio et des choses comme ça, ça malheureusement, je ne saurais pas vous répondre.
Un des autres points qui a été souligné par plusieurs des spécialistes qu'on a rencontrés, c'est aussi l'origine des gens, où en fait on nous expliquait que la tradition culinaire fait aussi qu'il est difficile justement de changer les habitudes. Et du coup, par ce prisme, il relevait justement un point important, le diabète, qui est très haut à Molenbeek, justement parce qu'il y a une population d'origine maghrébine qui mange très sucré. Et est-ce que vous avez constaté ça aussi ?
Je pense que c'est un peu simpliste. Hein. Excusez-moi, c'est un petit peu simpliste. J'ai beaucoup de diabétiques qui arrivent en consultation ou dans les conférences, mais bon, c'est plus souvent en consultation. Je peux vous dire que c'est vraiment de toutes origines. Donc j'ai aussi bien des personnes maghrébines que des personnes d'Afrique noire, que des pays de l'Est. On en a de plus en plus aussi. Et vous dire vraiment que voilà, dire comme vous dites que ce sont vraiment les Maghrébins qui ont le plus souvent le diabète parce qu'ils mangent trop sucré, je trouve ça un petit peu simpliste.
Non, oui, c'était pas tout à fait ça, mais après voilà, c'est
une diabétologue qui une infirmière spécialisée en diabétologie qui travaille ici sur la commune, qui nous avait fait part de ce constat qu'elle avait pu avoir, qu'elle avait beaucoup de gens issus du Maroc ou d'Algérie qui justement souffraient plus de diabète dû à une nourriture peut-être un peu plus riche et qui par contre à l'inverse une fois qu'ils étaient passés sous traitement étaient des gens qui plus facilement revenaient à un taux normal par rapport à d'autres en fait.
Mais ce que vous dites est juste, mais c'est juste pour vraiment toutes les populations. Moi je pourrais vous montrer mes fichiers. J'ai par exemple, comme je vous disais, beaucoup de personnes qui viennent des pays de l'Est qui sont venues avec un pré-diabète et après quelques mois ont pu échapper au diabète. Mais voilà, de là à dire que c'est juste pour les Maghrébins, non.
Non, non,
voilà.
C'était... On ne fait que rapporter une discussion que nous avons eue au cours de la semaine de la santé, mais donc du coup, vous ne constatez pas la même chose, vous, dans le cadre de vos visites.
J'ai beaucoup de diabétiques, c'est vrai, mais
de partout.
Voilà, exactement.
C'est l'idée. Eh bien, je vous remercie. Malheureusement, le temps avance et nous sommes en retard dans cette émission, malheureusement. Merci beaucoup d'être venu pour cette interview. On va justement aller plus loin dans la prévention des maladies avec toi, Séraphine.
Et oui, merci Alexandre et bonjour à tous. Comme vous le savez, notre santé ne dépend pas uniquement de notre alimentation et pour preuve, on connaît ou pas la micronutrition qui permet de soigner le patient à travers l'alimentation. Mais des séances de sport peuvent également être prescrites par des médecins à leurs patients pour les guérir. Alors ce sport sur ordonnance, c'est une pratique qui a été officialisée en 2015 en Belgique, mais en France, elle vient tout juste d'entrer en vigueur depuis le 1er mars 2017, très exactement.
Alors Séraphine, de quoi peut-on guérir concrètement en prescrivant des séances de sport ?
Alors oui, cette thérapie de l'exercice, comme on l'appelle, elle se montre particulièrement efficace pour les cas d'hypertension, de dépression, pour la sclérose en plaques et même dans des domaines aussi complexes que la cancérologie. Enfin bon, la liste est longue. Seul hic pour nos voisins français, les séances de sport ne sont pas encore remboursées par la Sécurité sociale. Et à tort, on estime que le remboursement des séances de sport serait plus rentable que le remboursement des médicaments. Pour preuve, l'activité physique agit à la fois en amont, en prévenant des pathologies lourdes et en prévenant les récidives. Mais le sport améliore également l'efficacité des traitements et réduit la consommation de médicaments.
Et après ça, si vous n'êtes toujours pas convaincu de faire du sport...
Et pourtant, vous Alexandre, il me semble que vous pratiquez de temps en temps la marche rapide. Eh bien, je vous en félicite car un Belge sur trois ne pratiquerait aucune activité physique selon un sondage de 2014 Eurobaromètre. C'est ce qui m'a poussée, bien logiquement, à m'intéresser à des gens qui, eux, font du sport tous les jours. Je suis partie m'immerger à Molenbeek, à la piscine olympique Louis Lamèche. J'y ai suivi l'élite de la natation belge francophone au CNBA, le Cercle Royal de Natation Bruxelles-Atalante, une équipe où l'on sculpte les corps et où l'on forge les esprits. Reportage en profondeur.
Bonjour monsieur, je viens pour voir Karim. L'entraîneur, il est déjà au bassin ?
Oui, il est au bassin.
Ok.
Le rejoindre ?
Oui.
Ok. Vous allez sans vos chaussures, pas où vous serez. Vous connaissez un peu la maison ou pas ?
Non.
Oui ?
Non.
Non, pas encore. Mais écoutez, je vous...
Merci. Non, je vais ici ou
pas ? Non, pas des plages.
Mais là, aujourd'hui, j'en ai 4 absents. D'ailleurs, ils vont prendre une pilule, parce que je ne suis même pas au courant pourquoi ils sont aux absents. On y va pour le 100 dos. Donc pour le 100 dos, toujours comme d'habitude, en parafond, on reste bien stable sur les 35 mètres. Et les 15 derniers mètres, on va à fond. Hein. OK ? On part à la noire. Les 15 derniers mètres, hein. Je veux voir personne qui s'effondre.
Naïli Karim, entraîneur de haut niveau pour le CNBA. Je m'occupe du groupe du Team A. Donc c'est un projet en reconstruction depuis 2 ans, après la fermeture de la piscine. Donc pendant cette période de transition, on a axé notre travail sur les jeunes. Et maintenant, on est reparti avec des jeunes pour les pousser vers le haut niveau. Bon, le chemin est très long. Au niveau expérience, ça fait 30 ans que je suis au bord des bassins. Et au niveau palmarès, bon, je ne vais pas tout le détailler, mais c'est quand même assez impressionnant. Mais bon, voilà, on ne va pas se jeter des fleurs. ceux qui sont intéressés, ils peuvent aller regarder.
27-12. Lucas, vers la fin. Allez, on y va. Attaque. Oui, oui, mais attaque. En compète, c'est ce qui va se passer. Il faudra attaquer sur les derniers mètres et être relâché. C'est pas parce que t'es à l'entraînement qu'il faut le faire.
En fait, notre travail, surtout à la base, c'est vraiment pousser les jeunes à aller vers le haut niveau, mais d'une façon assez harmonieuse, quoi. On ne peut pas vraiment les forcer. Mon objectif à moi chez les jeunes, ce n'est pas qu'ils soient les meilleurs jeunes de Belgique, mais c'est que dans 5 ans, ils soient les meilleurs nageurs de Belgique. Si tu viens nager, chez moi, c'est 7-8 fois par semaine. Tu as aussi un suivi diététique, un suivi psychologique. Tu as aussi une préparation physique qui doit se faire et tout doit être bien équilibré. Il y a du boulot. Ça, c'est, alors ici, à droite, ça, c'est le plus gros talon. C'est une petite marocaine, une molenbeekoise, une pure molenbeekoise. Bon, normalement, elle est en équipe nationale, mais j'ai pas trop envie qu'elle le soit. Parce que pour l'instant, elle est encore trop jeune, donc ça sert à rien du tout.
Je m'appelle Nisrine Benaïm, j'ai 14 ans. Je nage à la piscine de Molenbeek, au CNBA depuis 7 ans. Et voilà. En fait, ce que j'aime bien dans la natation, c'est que c'est un sport complet. Donc, j'aime toujours me dépasser dans l'eau. J'aime le fait de pouvoir jongler entre la natation et les études. Ça donne une certaine hygiène de vie, en fait, parce que on rentre de l'école, on dit « Ah, j'ai natation, donc je dois étudier maintenant, ou bien après, ce sera trop tard. » Donc, on étudie bien à l'avance. Et ça nous permet de pas trop grossir aussi.
33 et 35. Nesrine, va falloir travailler tes départs, là. Ah ouais.
Si tu viens, tu le fais bien. Tu dois pas commencer à venir et glander, parce que sinon, ça sert à rien. Tu te lèves pas pour rien, quoi. C'est tout.
Moi, c'est pas trop mon truc que les nageurs se consacrent qu'à la natation. J'allie les études et la natation en priorité. Donc, ça doit être 50-50. D'ailleurs, tous mes nageurs qui ont obtenu des sélections, qui ont été sur des championnats du monde, Coupe du monde et tout, ça a toujours été des nageurs qui sont sortis de l'université, notamment l'ULB, surtout. Faire que de la natation, je le ferai le jour où je serai sûr qu'un nageur décrochera une médaille olympique. Pour l'instant, la médaille olympique, on n'y est pas, mais les Jeux olympiques, on y est presque.
Moi, c'est Mickaël Lénard, coach adjoint du groupe élite après Karim. Je m'occupe de tout ce qui est la partie préparation physique chez les nageurs ici élite. Il n'y a rien à faire, ils nagent pendant 2 heures, ils nagent parfois 6, parfois 7 kilomètres, et à un moment, on en a marre. Pourtant, ils continuent. Je pense aussi parce que c'est leur passion, mais je pense que même pendant la vie de tous les jours, quand il y a des choses qui ne vont pas, ça permet de forger un certain mental par le sport et ça leur apprendra pour plus tard aussi à gérer leur emploi du temps.
Ce soir, je vais rentrer, je vais manger. Je vais passer une petite soirée en famille parce que demain, c'est les vacances. Mais je vais aller me coucher tôt parce que demain matin, j'ai entraînement.
On a fait que le gros problème qu'il y avait, c'était pas au niveau des moyens, oui, mais c'est aussi au niveau de la gestion humaine. C'est-à-dire qu'on disait toujours, il n'y a pas les mal. Le matériel, il est là, mais la formation pédagogique et l'expérience pour encadrer tous ces jeunes, n'y était pas. Et c'est ce qui a déraillé. Moi, c'est mon avis personnel. Parce que moi, j'ai eu pas mal de gamins qui étaient en difficulté, que j'ai su redresser, que personne ne savait redresser. Parce qu'on ne sait pas leur en parler et on n'a pas l'expérience nécessaire pour les prendre. Et c'est pour ça que ça marche bien avec moi. C'est que moi, je sais les mettre au pied du mur. Yacine, un coup de bras en plus pour rien. Au mur, tu rajoutes un bras. Pourquoi? Voilà, ça c'est un peu de tempérament typiquement méditerranéen, maghrébin. Il râle, mais moi je m'en fous. Fini, Lucas. Il râle, mais bon, ça je m'en fous. Moi je suis élevé dans ça, donc ça ne me dérange pas. Prêt? Yep.
Je m'appelle Yacine, j'ai presque 17 ans. Et je suis né en Espagne, ça fait un an que je suis là en Belgique. Et j'aime bien les sprints en natation. Ma course préférée, c'est le 50 crawl et le 50 dos. Et j'aimerais bien arriver loin, genre champion olympique, un truc comme ça. Moi, je ne connaissais pas CMBA. Moi, j'ai vu qu'il y avait un club ici à Bruxelles. Et je suis venu ici. Moi, je ne savais même pas s'il y avait un bon niveau ou pas. Et quand j'ai commencé à nager, j'ai vu que c'était un bon niveau. Et j'ai continué. Nager, ça me calme. Hein. Je suis trop fatigué, je suis tout le temps fatigué. Ouais.
35-17, c'est pas bon. On dirait deux petites brebis dans l'eau. C'est pas bon, 31. Deux bébés. Faut vous dépasser, les gars. Dernier 50 mètres, on met la...
C'est ça que les jeunes, ils déraillent tous pour l'instant. Parce qu'on leur a donné trop de facilité. On leur a dit oui. Oh, t'as envie d'arrêter? Arrête. Alors ils décrochent tous. Si jamais tu dis à un jeune, ah, écoute, c'est pas grave, arrête. Non, non, tu dois aller jusqu'au bout. La solution, justement, c'est ça. Les jeunes, à Molenbeek, qui tombent au chômage. Il n'y a personne qui va aller leur dire, oui, pourquoi t'arrêtes? Il n'y aurait pas quelque chose qui pourrait t'aider à... Et si on fait ça pour tout le monde, à ce moment-là, on aura un résultat. Mais si on les laisse faire ce qu'ils veulent, c'est ce qui nous a causé tous des problèmes.
Alors que c'est un quartier qui a un bassin olympique. Tu t'imagines la référence que c'est. Tu peux aller chercher dans toutes les communes. La référence pour une commune, c'est d'avoir un bassin olympique. Ici, on a un bassin olympique. Bon, qui a été fermé 2 ans, mais on a un bassin olympique. Et on ne faisait rien avec. Pourquoi ? Comme je reviens au problème, on ne met pas assez de pression.
C'est qui l'élu ?
C'est nous !
C'est qui l'élu ?
C'est nous !
Et c'est des jeunes, ils travaillent toujours en meute. Donc quand ils font des conneries, c'est toujours en meute, en groupe. Mais s'ils sont tout seuls, c'est des petits bébés. Moi, dès que si j'ai un problème avec un nageur, ben, je le prends à part, je lui parle bien, une fois ou deux fois correctement, et c'est fini, je lui fais passer le message. Bon, on se voit demain.
Alors, ce qui n'a pas été dit dans le reportage, c'est que ce groupe, entraîné par Karim et toute une équipe, est véritablement international. Les nageurs sont belges, wallons et flamands, roumains, espagnols, marocains, français. Et d'ailleurs, ils sont nombreux, ces nageurs, à représenter leur pays lors de championnats. D'ailleurs, ce que me disait Karim, l'entraîneur, c'est que tout le monde est le bienvenu chez lui, du moment qu'il fait partie du groupe et qu'il est sérieux et motivé, à méditer. Ce qui m'a également frappé, Alexandre, lors de cette immersion, c'est l'humilité et la motivation de ces jeunes hommes et femmes. On a pu l'entendre, la plupart sont élèves ou travaillent déjà. Il y a également beaucoup d'étudiants, dont un en particulier qui s'appelle Lucas, il a 21 ans. Et en plus de nager au moins 2 heures tous les jours, sans compter les séances de musculation, eh bien Lucas, il est élève infirmier et il a un job étudiant. On se demande comment c'est possible de tenir avec un tel rythme. Lucas, il n'est pas juste courageux et passionné, il n'a aussi pas le choix. Pratiquer un sport de haut niveau, qui plus est la natation, eh bien ça coûte cher. Je vous propose d'écouter la maman de la jeune Nisrine qu'on a entendue dans le reportage. Cette maman, eh bien, elle a ses 2 enfants qui font tous les 2 partie du groupe élite de natation du CNBA. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça peut devenir un sacré budget, pas forcément accessible à toutes les bourses. On écoute la maman de la jeune nageuse.
Ce que je trouve dommage, c'est que quand on sait suivre, bah voilà, les enfants ont l'opportunité de faire ce qu'ils aiment. Mais quand voilà, il y a des familles qui ont moins de possibilités financières, bah, malheureusement, voilà, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de... Et à un moment donné, ils doivent s'arrêter parce que quand on monte en élite, bah, il faut pouvoir suivre financièrement et ils ne peuvent pas. Il y a une maman qui avait fait le calcul l'année passée et on est arrivé à peu près au même montant. Ça peut tirer vers les 5 000 euros par enfant, par année. Voilà.
5 000 euros. Alors dans ce budget, on a les déplacements en compétition, le logement qui n'est pas pris en charge lors de ces compétitions. On a également la cotisation annuelle de 600 euros, le matériel, notamment les maillots de compétition qui coûtent entre 200 et 500 euros et qui ne sont utilisables qu'une dizaine de fois. Mais ce que j'ai appris en faisant ce reportage, c'est que la Belgique alloue très peu d'aide aux clubs pour financer une activité sportive, notamment à haut niveau. Ce que me racontait cette maman, c'est que quand Nisrine et son frère Ryan nagent pour la France, comme cela peut leur arriver lors de certaines compétitions, eh bien tous les frais de déplacement, de logement sur place et de restauration sont pris en charge par l'État français. En Belgique, et c'est bien dommage, l'État ne mise pas sur ces jeunes athlètes ou il ne mise pas sur le sport tout court. Et un autre problème se pose pour les habitants de Molenbeek, et c'est le manque d'infrastructures sportives. Ici, le constat est clair, ou presque, Molenbeek serait une commune de Bruxelles qui a le moins d'infrastructures sportives par habitant. Et nous avons avec nous aujourd'hui notre journaliste data Benoît. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors Benoît, vous avez fait votre petite enquête sur ce point. Est-ce qu'il y a véritablement un manque en termes d'infrastructures sportives à Molenbeek ?
Alors pour répondre à cette question, Séraphine, il faut comparer l'offre sportive de Molenbeek à celle des autres communes. En moyenne, en région Bruxelles-Capitale, on compte 20 structures sportives pour 10 000 habitants. À Molenbeek, on en compte seulement 12. Donc oui, quand on compare au reste de la région, Molenbeek accuse un certain retard pour ce qui est de l'offre sportive. Alors ce chiffre, il nous vient d'un rapport, celui du cadastre du sport en région Bruxelles-Capitale. Cette étude nous dit en plus que la pratique du sport à Molenbeek est... elle aussi inférieure à la moyenne de la région. Et ça, c'est évidemment lié au manque d'infrastructures.
Mais pourquoi y a-t-il si peu de centres sportifs dans la commune qui abrite un des plus forts taux de jeunes, 28,5% de la population à moins de 28 ans à Molenbeek ? Un premier élément de réponse serait la forte augmentation de la population. Le premier échevin de Molenbeek, Mohamed Elkanous, et Cyril Lemoulec, employé de la commune attaché au service des sports, nous l'explique.
Il y a eu ce manque d'anticipation de la part des autorités. Il y a eu une augmentation de cette population qu'apparemment aucun démographe, aucun responsable politique n'a pu anticiper. Nous avons, il faut le rappeler, à Bruxelles, une augmentation de plus de 150 000 habitants. Et pour revenir à Molenbeek, nous sommes passés de 2006 à aujourd'hui, de 77 000 habitants à près de 100 000 habitants.
Je crois que c'est l'une des communes les plus denses de Belgique.
Je crois que c'est environ 15 000 habitants au kilomètre carré, donc c'est énorme.
La commune a donc subi un boom démographique, et c'est ce boom démographique qui expliquerait l'écart entre le nombre d'infrastructures sportives proposées et le nombre d'habitants, mais pas que.
Pour en revenir en fait à Molenbeek, qui est une commune de Bruxelles, une toute petite commune de Bruxelles, avec une densité de population vraiment très très importante, c'est très très difficile en fait d'implanter des infrastructures sportives, quoi, compte tenu du manque de foncier.
Ce que nous dit Cyril Lemoulec, employé à la commune attaché au service des sports, Benoît, est-ce que ça se vérifie dans les chiffres ?
Oui, tout à fait, car à Molenbeek, il y a à peu près 22% du territoire qui est non bâti. C'est moins que ces communes voisines, il y a donc moins d'espace pour construire. Et dans les espaces qui sont quant à eux bâtis, une grande partie est consacrée au logement, car Molenbeek, on vient de le dire, est la quatrième commune belge en termes de densité de la population.
Bon, alors jusqu'à présent, on a évoqué des raisons pratiques au manque d'infrastructures sportives à Molenbeek. Mais pour Cyril Lemoulec et Mohamed Elkanous, la solution passe surtout par le politique.
La solution à terme, sont des solutions qui seront plutôt intercommunales, quoi. Je pense qu'il faut, à niveau politique, favoriser les relations intercommunales de manière à optimiser l'implantation d'infrastructures sportives et d'optimiser la pratique des activités physiques et sportives.
Et c'est ce qui fait défaut ici chez nous, côté francophone en tout cas, mais de manière générale en Belgique, c'est qu'on n'a pas, je dirais, cette vision politique d'investir dans la jeunesse à travers la pratique sportive pour pouvoir permettre à un maximum de jeunes de donner le meilleur d'eux-mêmes et pourquoi pas voir des futurs champions sortir de l'ombre.
On en revient donc aux politiques. Espérons qu'en termes de sport, la Belgique évolue et prenne exemple, une fois n'est pas coutume, sur sa voisine française. Alors Benoît, avant de se quitter, vous allez rester un peu avec nous en plateau. Vous êtes, je le rappelle, notre journaliste data sur ce projet, avec toute une équipe. Est-ce que l'on peut dire, avec votre équipe de data journaliste, c'est que vous avez effectué un travail de fourmi en rassemblant des chiffres et des données, et vous avez établi ou rétabli des vérités sur Molenbeek. Expliquez-nous un peu ce projet data, Benoît, et peut-être ce que vous avez découvert.
Depuis maintenant un certain temps, Molenbeek, vous le savez, est la commune la plus célèbre au monde. Les médias en parlent, les politiques aussi. Et parfois, certains avancent des chiffres sur cette commune, que ce soit au niveau du taux de chômage, des revenus moyens ou encore de la nationalité de ses habitants. Nous avons remarqué que parfois, ces informations sont utilisées sans contexte, sans explication et même, dans certains cas, elles sont carrément fausses. Notre objectif est donc de rectifier ces informations et de réaliser un portrait de Molenbeek à travers ces chiffres, ce data corrigé et expliqué. Alors bien sûr, ici, je ne vais pas tout dévoiler, mais je peux juste vous dire que nous commençons par un point géographique, indispensable car certains médias ont réussi à placer la commune en dehors de Bruxelles, parfois même à plusieurs centaines de kilomètres de la capitale. Pour le reste, rendez-vous sur le portail 1080 visages sur Internet.
Et c'est ici que se termine cette émission. Nous tenons à remercier vivement Angela Longuin qui était avec nous aujourd'hui, Alain de Keuch qui était avec nous aussi, Amina Ferdjioui qui sont venus répondre à nos questions. Pardon. Nous remercions aussi Angile Goris, échevine de la santé de Molenbeek, Alice Debris et Alice Gansingbe de nous avoir reçus. Merci à toute la direction du CNBA, des nageurs et leur entraîneur Karim Naili, ainsi que Madame Benaïm. Merci à Benoît Deplace et Richard De Wolf pour être venus nous parler du projet, à Philippe Delchambre pour le mixage et à toi Gérald pour la technique. Vous retrouverez dimanche après-midi sur BX1 le reportage sur les maisons médicales pour aller plus loin sur la notion de bien-être et la notion de santé à Molenbeek. Retrouvez dès lundi à la même heure le prochain numéro de Voix de Passage, l'émission éphémère du projet 1080 Visages sur le 91 Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université Libre de Bruxelles. D'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Bonne fin de journée à tous. On se quitte avec les mots de Angile Goris, échevine de la santé de Molenbeek, qui nous donne sa vision du bien-être.
Si je parle en mon nom propre, je dirais le bien-être, c'est se sentir bien avec soi-même. C'est être paisible dans la réalité qu'on a à vivre. Il n'y a pas de bien-être théorique. C'est là où je suis, ici et maintenant. Comment est-ce que je me sens d'abord avec moi-même et puis en lien avec les autres.
Voix de passage.
C'était Voix de Passage, l'émission radio du projet 1080 Visages, consacrée à la prévention de la santé à Molenbeek. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur 1080visages.lesoir.be.
Radio Campus, la radio du troisième type.
Mais qui c'est ce troisième type dont on parle tout le temps ?